capitale de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue à Parole aux auditeurs, votre magazine interactif. Le Monde célèbre vendredi 1er décembre, aujourd'hui bien sûr, 2017, la journée internationale de lutte contre les sida. Selon ONU Sida, avec 1,2% des prévalences et 370 000 personnes affectées à ce jour, la RDC a réalisé des progrès considérables depuis 2010 en matière de lutte contre les sida. Selon Marc Saba, directeur pays de l'ONU Sida, malgré ces avancées, le pays a encore des défis à relever avant d'atteindre l'objectif de 2030 qui vise l'élimination de la pandémie dans le monde. Quels seraient selon vous les préalables pour relever ces défis? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 et 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct. Le débat se tient également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elameji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elameji.
Dans la célébration de la journée mondiale contre le sida, rappelons que la RDC a fourni beaucoup d'efforts depuis 2010, comme ça a été dit, dans la lutte contre cette pandémie, mais des défis restent encore à élever, par exemple la stigmatisation des personnes portant vivant avec le VIH, ainsi que l'accès aux antirétroviraux dans beaucoup d'autres milieux, le dépistage volontaire. Comment arriver à relever tous ces défis? C'est la question au centre de notre échange. Wesley, merci de nous avoir contacté. Vous êtes à Kananga, au Kasaï central. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour Radio Okapi et bonjour à tous les nombreux auditeurs de la Radio de la Paix.
On vous écoute, Wesley.
Merci pour l'octroi de la parole. Je suis Wesley Louboya depuis la ville de Kananga. J'ai personnellement salué la journée d'aujourd'hui parce que tout le monde a besoin de la santé, car dit-on, la santé n'a pas de prix, d'où il faut prévenir. Alors, comme la journée est dédiée à cette maladie qui décime beaucoup de personnes, le sida bien sûr, nous sommes en train de sensibiliser aussi au niveau local certaines jeunes filles, jeunes garçons à observer certaines pratiques qui peuvent leur permettre à éviter cette maladie ou cette pandémie qui se répand à travers le monde. Pierrot, mais il y a un problème. Vous savez, le ministère de la Santé doit d'ailleurs jouer un rôle très important dans la sensibilisation de mesures préventives de la contamination ou de la propagation de cette maladie. Il y a des séminaires, bien sûr, qui s'ouvrent et qui sont tenus ça et là, mais malgré la tenue de ces séminaires, on n'arrive pas toujours à avoir des résultats efficaces dans nos milieux ruraux parce que la façon dont cette maladie se propage et aussi se multiplie, on n'a pas d'idée. Ici à Kananga, moi personnellement, j'ai été victime d'une personne morte de cette maladie-là. Mais il faut voir avant de mourir de cette maladie, Pierrot. Vous n'allez pas croire que c'est la maladie du sida. Donc, c'est en fait une maladie pour laquelle toutes les mesures, d'abord préventives, doivent être prises pour épargner un bon nombre de personnes à être contaminées par cette maladie. Alors, le gouvernement, notre gouvernement, parce que c'est à lui la mission, au travers de son ministère de la Santé, de pouvoir intensifier les campagnes de sensibilisation, de vulgarisation, surtout dans les milieux où les gens croient encore que la maladie du sida est un mythe, c'est pas une réalité. Il faut que ces ministères se prennent en charge, qu'ils mettent en mouvement tous les moyens possibles pour que les soucis soient atteints.
Merci,
et aussi
beaucoup,
au niveau des parents, parce que les parents aussi ont une part de responsabilité. Même certains adultes, les enseignants, les agents de l'ordre, ils ont une responsabilité dans la propagation et surtout dans la sensibilisation contre la propagation de
cette
maladie.
Alors, quand on vous écoute, Wesley, comme vous êtes en train de le dire, c'est pas seulement une responsabilité du gouvernement. Vous avez parlé des parents, des enseignants, des agents de l'ordre. Cela veut dire que la question de la lutte contre les sida, c'est une question transversale qui concerne tout le monde. Et pour vous, le défi, on ne peut le relever que quand la question devient une préoccupation de tout le monde dans la sensibilisation et dans la prévention. Merci beaucoup, Wesley de Kananga. Gaston, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Merci, Pierrot. Je vous salue aussi.
Oui. On vous écoute, Gaston.
Bon, moi je vais être un peu sévère hein, avec le personnel médical. Et je regrette aussi cette journée-là. Je veux aussi informer, par exemple, un docteur, un médecin que je connais bien, Gaïdiofa, docteur Ngandou, de me comprendre mon émotion, grand héritier. Parce que moi je constate qu'il y a un problème. D'abord, dans les chefs de ceux qui sont censés qualifier hein, qu'une telle maladie, comme ça se présente, c'est le sida. Donc ça, vraiment, il y a l'incompétence, si je peux le dire, l'incohérence dans les chefs du travail des soi-disant médecins. Ces gens-là, ils sont qualifiés, ils sont censés qualifier que telle maladie se trouve, c'est le sida. Nous, en droit, lorsque vous qualifiez un fait, il faut que ça soit réellement ce qui est prévu. Mais si c'est pas le cas, tout est biaisé à partir de là. Nos médecins sont à la base de beaucoup de choses, soit beaucoup de morts dans ces pays. Vous savez, dans ces pays, lorsqu'on vous traite d'un sidaïen, vous êtes voué à la mort, ça vous l'ignorez pas.
Et non, mais monsieur Gaston, nous avons dit à l'introduction que la RDC a fourni beaucoup d'efforts. Si vous avez suivi Radio Capi ce matin, vous vous rendrez compte qu'en 2010 ou en 2017, on a eu le résultat de plus de 50%, ce qui a quand même beaucoup d'efforts. Comment pourriez-vous continuer à dire que non, en RDC, dès qu'on vous découvre que vous avez la maladie, non, vous mourrez?
Bon, Pierrot, s'il vous plaît, moi j'ai dit, ça ce sont des résultats que vous vous donnez. Moi, je suis un peu réaliste, je vois, parce que moi je vis, je peux vous dire,
mais
par exemple...
Mais M. Gaston, le réalisme doit être basé sur les chiffres. Est-ce que vous avez les chiffres contraires qui disent que non, à RDC, la situation se complique davantage et qu'il n'y a pas d'amélioration?
Non, moi j'allais vous dire ceci. Même les taux qu'ils donnent là, les taux qu'ils vous donnent, par exemple, il y a une éviction, soit, ils avaient fait un statistique, mais moi j'ai dit, ces statistiques-là sont faites sur base des cas qui sont qualifiés ainsi dans nos hôpitaux. C'est pour cela que je rentre là-bas pour vous dire qu'en réalité, ce qui est qualifié de sida ne l'est pas. Hein, ne l'est pas, ça je vous le dis franchement. Il peut y avoir, parce que je ne doute pas, je ne dis pas que tout le monde est incompétent, parce qu'actuellement tout le monde peut vous qualifier de sidaïen, mais vous savez vous-même les sorts que la société va vous réserver. Ces gens-là ne sont pas professionnels. Hein.
Si vous dites apparemment,
propagez les messages pour que vous puissiez être
oui,
haï de la
apparemment,
société.
Gaston. Et puis, apparemment, Gaston, on est en train de mettre sur deux longueurs d'onde très très différentes, hein, parce que vous dites que vous en droit, mais en droit vous devez avoir des faits et des chiffres. Vous dites que non, ce qui est qualifié par le corps soignant des SIDA, c'est pas ça, mais il fallait au moins avoir des faits concrets qui puissent nous permettre d'évoluer dans le débat. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Merci de nous avoir rejoints. Alors, comment on peut arriver aujourd'hui à relever les défis dans ce qui reste dans la lutte contre le sida, Jean-Claude?
Oui, merci Pierrot de m'employer la voix au chapitre. Dans tous les jeux, moi, je vais d'abord commencer à dire, comme vous l'avez dit, c'est une question qui doit être traitée de manière transversale. Nous avons, sur base des rapports, on dit qu'il y a une réduction. Nous saluons cette réduction. Mais le problème, c'est quoi? On ne sent pas cette mobilisation. Il n'y a pas une mobilisation là, tous azimuts, de la part de tout le monde. Si aujourd'hui, c'est le ministère de la Santé, si aujourd'hui, c'est peut-être l'Organisation mondiale de la Santé, mais on ne sent pas ici, dans les différents couloirs, on ne sent pas cette mobilisation, à part soulever au niveau de la division, peut-être une ou deux fois par an. Donc, il faudrait que dans les différentes écoles, dans nos écoles, primaires, secondaires, même dans les milieux universitaires, il faudrait qu'il y ait des sensibilisations. Et on ne doit pas toujours prendre, parce qu'il y a les autres qui prennent le sida comme une maladie mythique. Pour d'autres, par exemple, aussi de Maniema, on dit non, il y a peut-être un féticheur qui est en train de soigner cette maladie. Alors que nous disons, si réellement c'est une maladie, c'est tout le monde qui doit prendre cette situation au sérieux, pour que peut-être d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, nous devons atteindre, parce que l'éradication du sida, c'est parmi les objectifs du millénaire pour le développement. Maintenant, il faudrait que d'ici 2030, nous puissions dire que non, zéro maladie du sida dans notre pays. Donc, pour conclure, moi je dirais que non, il faudrait qu'il y ait une mobilisation de la part de tout le monde, pour que nous puissions aboutir à une meilleure fin, Pierrot et Lamé.
Merci beaucoup. Et pour vous, le défi, vous l'avez dit, Jean-Claude, c'est que la lutte contre les SIDA devienne une préoccupation nationale, que tout le monde soit impliqué. Vous avez évoqué les écoles, c'est pourquoi même Wesley a parlé des parents, a parlé des enseignants. C'est une question qui concerne tout le monde et c'est de cette façon qu'on peut arriver d'ici 2030 à réduire, à éliminer totalement cette pandémie dans le monde, à RDC en particulier. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Florian. Bonjour, Florian.
Bonjour, M. Pierre.
Et pour vous, comment les défis dans la lutte contre les SIDA peuvent-ils être relevés?
Merci pour la parole. Je salue les auditeurs. Et pour moi, l'un des points où on doit insister, jusque-là, peut-être il y a des gens qui n'insistent pas là-dessus, c'est sur l'observance du traitement, M. Pierre. Parce que moi, je travaille dans un hôpital dans le Congo central. Et parmi les témoignages que j'ai apportés, nous recevons beaucoup de malades qui viennent avec infection à VIH. Et beaucoup parmi eux finissent par mourir. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que beaucoup parmi eux ont commencé les traitements, mais par après, ils ont fini par abandonner. Mm-hmm. Les raisons de l'abandon, parfois, si vous fouillez bien l'information, ce sont des raisons qui ne tiennent pas la route, parce qu'ils se sont découragés d'eux-mêmes. Et c'est dans ce sens-là que moi, je voudrais insister pour qu'on puisse sensibiliser les gens dans le maintien du traitement. Ils commencent bien le traitement, mais parfois ils abandonnent. Et lorsqu'ils font l'échec thérapeutique, comme nous l'appelons, ils nous reviennent avec des maladies déjà compliquées et c'est difficile de les soigner. C'est ainsi que nous avons beaucoup de décès liés au VIH. Donc on doit insister pour que les malades puissent maintenir leur traitement. Il faut une forte sensibilisation, une forte éducation, c'est ce qu'on appelle éducation thérapeutique. Voilà un peu ce que je pouvais.
Alors, mais est-ce dire, que Florian, quand quelqu'un est déjà diagnostiqué qu'il est sous traitement, n'y a-t-il pas dans les structures de santé un service de suivi pour être à côté de cette personne, l'encourager et enfin qu'il puisse rester attaché au traitement?
Tout à fait, Pierrot. Et il y a des structures là-dessus. Maintenant, moi, et dans ces structures-là, les gens, il y en a déjà qui viennent et d'autres sont perdus de vue. Il y a certains qui ont donné parfois leur numéro de téléphone et donnent des fausses adresses. Lorsqu'ils ont perdu de vue, il devient difficile de les suivre et malheureusement, ils arrêtent leur traitement parfois même une année après qu'ils reviennent déjà avec un stade très avancé de la maladie. Donc les structures existent bien, mais parfois il y a des difficultés dans leur suivi. Donc tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le VIH-SIDA doivent fournir beaucoup d'efforts pour essayer à maintenir les gens sur le traitement des ARV. Quoi.
Merci. Merci beaucoup, Florian, de ces témoignages. Il faudrait un travail de suivi pour ceux-là qui sont déjà sous traitement. Il y en a qui abandonnent par les découragements, par la peur. Je crois aussi à la question de la stigmatisation. Vous l'avez suivi, il y a un autre invité ce matin, le directeur pays de l'ONU SIDA ici en RDC, a évoqué cette question de la stigmatisation sur laquelle il faut encore travailler. C'est qu'il faut amener la population à avoir un regard positif, à changer de regard face aux personnes porteurs du virus, le VIH. Alors c'est par ce regard qu'on doit permettre aussi à ceux qui sont en train de suivre le traitement d'y aller jusqu'au bout en les encourageant. Merci pour ces témoignages, Florian. On retourne ici à Kinshasa. On y reste bien sûr avec vous, Adrien. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je salue déjà tous les prédécesseurs.
En évoquant les uns et les autres, on a tendance des fois peut-être à dire, voilà, le gouvernement, voilà, telle personne. Mais à la fin, la plupart des compatriotes chutent par le fait que c'est une question qui concerne tout le monde. Alors, comment chacun à son niveau peut-il prendre des décisions qui puissent nous permettre de relever les défis de la lutte contre le sida?
Je salue déjà l'initiative de l'OMS de pouvoir consacrer toute une journée. Dans cette journée, nous sommes en train de nous rappeler de ce fléau qui, d'abord, a évolué. Il faut retenir qu'avant, la maladie du sida était vue comme une malédiction. Les églises même utilisaient cela comme de la part des esprits, des démons et d'autres qui croient que même au niveau de la prière, ça pourrait être incurable. Donc, c'est un problème de foi. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes en train de nous rendre compte que les gens sont en train d'évoluer dans la mentalité et considérer le VIH-SIDA comme une maladie, au même degré comme d'autres. Alors, mon regard, c'est beaucoup plus le partage des responsabilités. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont beaucoup plus martelé sur l'État, ce qui est tout à fait normal, mais aussi il y a la responsabilité de la société, parce qu'aujourd'hui, ce fléau est en train d'être stigmatisé, surtout hein, les porteurs de ces virus ne sont pas libres. C'est pourquoi j'ai félicité, déjà il y a une campagne de briser le silence au niveau des PDV qui sont en train de donner leur témoignage. Parce que nous avons suivi dernièrement, il y a eu une campagne en ce sens-là. Même les enfants qui naissent avec le VIH-SIDA, donc les PVV nés, qui grandissent et qui étudient. Et on a eu même des témoignages des personnes qui sont à l'université et qui est né avec le VIH-SIDA, mais à l'aide des ARV, il est en train de continuer à mener sa vie d'une manière normale. Alors, je vais beaucoup plus m'atteler sur la prévention, le mot de prévention, parce que c'est très important que les gens puissent être fixés sur le mot de prévention. Et pour moi, d'ailleurs, un de mes prédécesseurs avait parlé de l'école. Moi, j'avais estimé qu'au niveau de l'école, dans le programme scolaire, et surtout dans le cours d'éducation à la vie, il faut que le ministère de l'Enseignement essaye d'insérer cette notion de VIH-SIDA de prévention depuis le cycle d'orientation. Donc, j'ai proposé déjà en première secondaire. Si au niveau de l'école secondaire en première, parce que l'enfant commence à découvrir la sexualité, et il est difficile d'apprendre à l'enfant s'abstenir, mais il est mieux de pouvoir lui apprendre toutes les méthodes qu'il pouvait utiliser, que ce soit des méthodes naturelles tout comme artificielles. Alors, si à partir de la première année, l'enfant est en train d'être initié à ces modes de prévention et que ça soit progressif année après année, je pense qu'il peut beaucoup plus avoir des éléments pour se protéger tant contre le VIH-SIDA qu'autre maladie sexuellement transmissible. Et de l'autre côté, c'est aussi la responsabilité des personnes qui sont déjà atteintes, comme j'ai dit, de briser le silence. Aujourd'hui, il est plus qu'important que les personnes qui sont déjà des PVV et qui sont sous mode d'ARV, qui sont sous cure, puissent essayer d'expliciter aux personnes non atteintes que c'est pas normaliser la situation, c'est-à-dire montrer que c'est normal, non. Mais essayer de briser le mythe, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, lorsqu'elle est atteinte de VIH-SIDA, elle se cache. Et au fur et à mesure que cette personne se cache, comme a dit l'un de mes prédécesseurs qui vient, qui s'annonce et qui ne revient plus, mais cette personne est en train de se tuer. Mais lorsqu'il y a des personnes qui donnent des témoignages, qui sont atteints et qui peuvent de même essayer de sensibiliser la population, même par des modes de dépistage volontaire, et encourager aussi ceux qui sont déjà atteints de pouvoir continuer à suivre les individus, c'est une bonne chose. Et enfin, pour terminer, rapidement, il y a une corporation de PVV au sein d'eux qui peuvent commencer à se retrouver de temps à autre pour essayer de discuter entre eux et partager l'expérience de leur vie en société.
Merci beaucoup Adrien. Plusieurs éléments importants. Briser les silences, c'est très important pour éviter la stigmatisation. Ça, c'est nouveau là qu'il faudrait encore travailler, mais c'est aussi important qu'il y ait un programme qui soit inséré, comme vous l'avez dit, à partir de la fin de l'école primaire, en début de l'école secondaire, qu'on puisse déjà avoir un programme consacré à la lutte contre le VIH. Dans les cours de l'éducation à la vie, je crois qu'à ce niveau-là, il y a moyen que l'enfant, déjà dès le jeune âge, quelqu'un soit déjà intéressé à la question du sida, et surtout en ce qui concerne la prévention, mais aussi l'acceptation de ceux-là qui portent le VIH. Et de cette façon, on peut arriver à bout de cette pandémie d'ici 2030, comme les objectifs le prévoient. Et merci beaucoup, Adrien. Athanase, vous êtes à Calémie. Bonjour. Athanase, bonjour.
Bonjour. Alors, je suis dans la ville province de Calémie.
On vous écoute, oui.
Je voulais aussi intervenir vis-à-vis de ces fléaux-là qui continuent à habiter le peuple congolais. Je remercie d'abord, premièrement, le premier intendant du gouvernement qui a fourni ses efforts parce que on est en train de diminuer le taux de sidéens au niveau de notre République. Maintenant, je voulais d'abord revenir sur le point du premier intervenant de cette émission. Il a bien dit. Le premier problème réside au niveau des institutions sanitaires. C'est avec les sensibilisations que ces gens parviendront à convaincre les gens. Parce qu'ils ont la matière, ils connaissent comment les conséquences quand quelqu'un est devenu séropositif. Quand quelqu'un est devenu sidéen, ils connaissent bien. Quand ils sensibilisent les gens. Et qu'ils parviennent à recouvrir tout la quantité de la République démocratique du Congo. Là, c'est le premier pas d'avance encore pour relever ces défis. Le deuxième, ce sont les écoles telles que le prédécesseur a dit. Les écoles aussi, comme nous sommes en train de voir, on sensibilise pour la violence sexuelle. Là, c'est aussi un moyen. Nous voyons des gens qui descendent. Moi, je suis professeur, donc enseignant professeur au niveau de l'Institut Mayangessi Academy. Ces gens descendent en train de sensibiliser pour les violences sexuelles. Parce qu'à partir des violences sexuelles, les enfants sont atteints par le sida sans le savoir. Là, c'est au niveau des écoles. Maintenant, au niveau de l'État, quand le premier intervenant a dit, au niveau de quoi de l'État, nous demandons à l'État, parce que prenons le cas d'ici à Calémie, il y a des gens qui sont en brousse, qui n'ont pas de moyens. Maintenant, ils n'ont plus de quoi manger, ils n'ont plus de quoi... Mais quand une fille trouve quelqu'un qui a un petit moyen, vous savez, dans un royaume des aveugles, le premier roi, celui qui a un petit moyen, même s'il est idéal, la fille ne contrôlera plus, n'est pas un peu à contrôler avec qui elle va faire des relations sexuelles pour savoir si cette personne est atteinte ou non. Mais comme elle est dans une difficulté grave, elle acceptera seulement le petit bien qu'on lui donne et la personne laissera cette maladie. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander au niveau du gouvernement de sécuriser l'entité de notre territoire congolais, donc de notre territoire congolais, parce que en sécurisant bien, en diminuant les milices, les poids, ça parvient aussi à contribuer à certains des poids de la santé à parvenir jusqu'au fin fond de notre territoire.
Merci.
Pour éviter ces gens, les faire venir jusqu'à la mémoire que non, voilà les conséquences des relations.
Merci. Merci beaucoup, Athanase. Vous avez évoqué des éléments clés, la sensibilisation à tous les niveaux. Les écoles, c'est important. Comme on parle de violence sexuelle actuellement, il faut aussi intensifier les campagnes au niveau des écoles pour la question de VIH, l'encadrement des enfants, la pauvreté qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes en milieu rural, comme vous l'avez dit, se retrouvent à la merci des hommes. Mais la question aussi de l'insécurité, les milices qui sont avec les violences sexuelles à la base de la propagation de la maladie, et l'ensemble de ces mesures vont aider à relever ces défis. Merci beaucoup, Athanase. Dieu merci, vous êtes à Manono. Bonjour.
Bonjour. Le journaliste de Radio Capi.
On vous écoute, Dieu merci.
Oui, moi, je dois d'abord remercier le gouvernement, en particulier aussi la zone de santé de Manono. Avant que les partenaires ne viennent pour cette campagne de lutte contre le VIH/SIDA, la zone avec quelques OAC de la place ont organisé une campagne. C'est une campagne qui avait eu des réussites et qui avait donné des résultats vraiment escomptés. Mais cette année, après au moins 12 ans, le départ de l'ONG Gold qui a existé à Manono, 12 ans après, c'est cette année que j'ai vu une campagne de masse pour la lutte contre le VIH/SIDA. Parce que dans la zone, il y a deux partenaires. On a Concern qui a organisé avec l'implication des écoles. Les élèves se sont appropriés la campagne. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des matchs qui se jouent entre les filles des écoles de Manon ici. Et même des sensibilisations passent à tout le temps là, y compris les garçons. Vous ne voyez pas que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en milieu rural, tout le monde devait croire que le VIH/SIDA, c'est la maladie des villes. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend que même ici, à Manono, la personne peut être atteinte par le VIH/SIDA. Mais le problème que je constate encore, c'est quoi? Si cette campagne doit être limitée seulement au centre, alors à l'intérieur, il n'y a pas seulement les centres. Si on doit utiliser cette radio, mais il y a aussi des aires de santé. Vous voyez comme la zone de santé de Manono compte au moins 27 aires de santé. Nous avons connu le premier partenaire, c'est Old Vision, Vision Mondiale, qui a aussi des partenariats avec Saint-Ri et le Fonds Mondial. Oui, a utilisé une bonne politique. Il a fallu impliquer les jeunes. Ce sont les jeunes qui ont mené des sensibilisations partout. Mais les problèmes, ils étaient limités. Ils n'ont pas pris toutes les aires de santé. Je ne sais pas si c'est par rapport aux moyens. Nous avons aussi l'ONI. Nous avons la MONUSCO, excusez. Il y a un programme de l'ONI SIDA. Pourquoi la MONUSCO qui fait des années dans les territoires de Manono, penser à sensibiliser, soit à financer pour la sensibilisation. Mais nous entendons seulement à Goma, partout ailleurs. Ici, il y a encore l'ignorance. Il y a les gens qui vivent encore dans les traditionnels. Vous ne voyez pas que si on doit amener des campagnes de sensibilisation jusqu'au coin le plus reculé du territoire, ça va sauver beaucoup de gens.
Merci, moi, je vais beaucoup, quand même encourager
vraiment l'initiative d'Agence de Santé.
Voilà, merci, Dieu merci. Et d'ailleurs, le témoignage par le fait que les élèves se sont appropriés la campagne. C'est un très bon témoignage, mais rappelons qu'au sein de la MONUSCO, parce que vous avez évoqué, il y a toute une section qui gère la question du VIH/SIDA avec autant d'activités et un jour comme celui-ci et d'autres jours, il y a beaucoup de campagnes qui sont organisées, des dépistages et des sensibilisations. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radio-okapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Daniel, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les millions des auditeurs qui suivent Radio Okapi en ce moment.
Et nous parlons de défis à relever dans la lutte contre le sida. Quel est votre point de vue?
Pierrot, sujet très intéressant, qu'on parle chaque 1er décembre de chaque année. Alors, le défi à relever reste sur le plan de la pauvreté, mais aussi accentuer la sensibilisation. La pauvreté, dans quel sens? Aujourd'hui, il y a deux jours, j'ai suivi sur Okapi l'invité qui était là, il a donné les statistiques, et les statistiques révèlent que c'est la province du Maniema qui est la plus touchée sur les 26 au Congo. Mais moi, j'hésite fort sur ces chiffres, voyant ce qui se passe ici au Katanga, précisément à Lubumbashi, où nous voyons la prostitution à grande échelle. Et quand vous suivez la racine dans tout ça, j'ai eu aussi à échanger avec quelques femmes de la rue, vous disent que, bon, je n'ai rien à faire, je n'ai pas d'activité, il n'y a pas assez de moyens, mais que voulez-vous que je fasse? Et il révélera même dans ça que, même en tarification, la prostitution, chez les prostituées, chez les professionnels de sexe, le rapport sans préservatif coûte plus cher que les rapports avec préservatif parce que le plaisir n'est pas complet. Et alors, sur cet angle, vous voyez que les gens conscients qu'il y a ces risques, à cause de la pauvreté, ils préfèrent gagner un peu plus en y allant sans protection, sans préservatif, qu'en les faisant pour gagner moins. Alors je pense que le défi à ce niveau, c'est beaucoup plus la pauvreté qui vient en première position et secondairement la sensibilisation. Et si nous parlons de la pauvreté, nous voyons que maintenant c'est une notion qui va impliquer aussi d'autres facteurs qui doivent intervenir, d'autres ministères aussi qui doivent intervenir sur ce point-là. Donc, à mon point de vue, je pense que c'est la pauvreté de la population et le manque de sensibilisation qui fait que les chiffres même qu'on a, nous sommes réservés par rapport à ça parce que c'est là qu'ils sont des zéros ignorants, sont aussi constitués un nombre important chez même les gens qui connaissent leurs statistiques sérologiques.
Merci, merci beaucoup Daniel. Vous avez évoqué la question de la pauvreté. Bon, en fait, la pauvreté qui fait que beaucoup de jeunes ou bien des personnes de sexe se retrouvent dans les relations non protégées. Mais rappelons quand même que cette question de relations non protégées ne se pose pas seulement sur ceux qui sont les plus démunis. Même dans les zones urbaines, même dans un milieu urbain, même là où il y a des gens qui ont de moyens, c'est une question de comportement. C'est pourquoi la sensibilisation elle est très très importante. S'il y a une faiblesse des sensibilisations, qu'on soit en milieu rural, qu'on soit en milieu urbain, on peut se retrouver en difficulté. Merci beaucoup. Mais vous l'avez dit, les chiffres sont donnés par rapport à ceux qui vont se faire consulter. Et vous estimez qu'il y a beaucoup de séro ignorants aujourd'hui, quitte à sensibiliser les gens pour aller faire le dépistage volontaire. C'est aussi ça, un défi, le dépistage volontaire. Merci beaucoup, Daniel. Alexis, vous êtes à Arou. Bonjour, Alexis.
Bonjour, Pierrot.
Oui, Alexis, on vous écoute.
Ah oui, le sujet est vraiment intéressant. Bon, moi, je voulais dire ceci. Pour le mois de novembre, il y a déjà des cas ici à Arou. Les jeunes sont morts comme ça parce que ils ont pris les médicaments et après tout, ils se sont découragés, ils ont laissé, bon, tout décidé quand même, après à leurs âmes. Maintenant, ma question aussi, l'invité là, je voulais poser, est-ce que les médicaments, c'est seulement pour prendre toute la vie ou est-ce que prendre les médicaments toute la vie, comme l'hôpital a déjà sa situation, on ne peut pas aller peut-être chercher un psychologue ou quelqu'un pour le suivre afin qu'il se donne quand même, bien que ça fait mal, mais qu'il essaie quand même de prendre ça parce que ça peut l'aider quand même à prolonger tant soit peu sa vie. C'était ça un peu ma question, mais vraiment c'est derrière ça, c'est ce que je constate beaucoup déjà, mais parce que au cours de la route, ils se découragent, ils disent bon, prendre ça vraiment, c'est dégoûtant, alors mieux vaut partir que continuer à prendre ça.
C'était merci, merci beaucoup Alexis. D'ailleurs, vous l'avez suivi en début d'émission, c'était notre compatriote Florian qui travaille dans un hôpital au Congo central. Il a dit, il y a cette question de découragement pour suivre les traitements. C'est ça même le rôle d'avoir des conseillers psychologiques, des conseillers, des accompagnateurs, hein, pour accompagner celui qui est en train de prendre les antirétroviraux pour une période jusqu'à ce qu'à un certain moment il y a amélioration de sa situation. Ce sont les médecins qui jugent quand est-ce qu'on peut continuer à prendre, à quel moment on peut arrêter en fonction de l'amélioration, de la réponse de l'organisme au traitement. Mais l'accompagnement psychologique, c'est pas seulement aussi l'hôpital. L'accompagnement psychologique, c'est aussi au niveau de la société, c'est au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Si nous avons un œil de stigmatisation de la personne qui porte le virus et la personne qui suit les traitements, avec tout ce que la personne peut entendre comme découragement au niveau de la communauté, ça peut l'amener effectivement à perdre espoir de la vie et puis décider d'arrêter les traitements. Ce qui est aussi très fatal quand on arrête les traitements. C'est pourquoi dans le système de conseils, on insiste sur le fait qu'il serait encore mieux de continuer à prendre ces traitements qui te permet, et avec une pensée positive, de rester, de regarder la vie en face et d'évoluer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés aujourd'hui, plutôt qu'abandonner et se décourager, abandonner les traitements, ce qui est plus fatal par rapport à la santé. Merci beaucoup, Alexis. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, il y a lieu de saluer d'abord l'effort, parce que même ici, à Kananga, nous sentons qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts fournis pour l'éradication de ces fléaux. Mais moi, je pense que les efforts devraient être encore vraiment fournis davantage. Entre autres, comme les gens ont dit, la sensibilisation devrait prendre une autre allure. Parce que chez nous ici, lorsqu'on fait une sensibilisation avec des campagnes motorisées, ça attire beaucoup de gens. Et ce qui fait que le message passe facilement et beaucoup de gens sentent que non, voilà, il y a tel problème, nous devons prendre telle précaution. Mais hélas, nous sommes donc dans une période que tout le monde connaît, le pouvoir a peur même des lézards. Lorsque les lézards passent, le pouvoir a peur jusqu'à telle enseigne que on a interdit même cette campagne motorisée pour la journée d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous déplorons. Là, c'est de un. De deux, une autre façon de lutter efficacement contre ces fléaux-là, c'est de permettre à tout, de permettre un accès facile et libre à tous les malades. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis la fermeture de certaines structures qui étaient spécialisées en cette matière, je cite Amo Congo, donc l'accès aux antirétroviraux devient vraiment un luxe. Ce qui fait que celui qui n'a pas un peu de sous ne sait pas vraiment accéder à ces antirétroviraux. C'est comme ça que moi j'ai toujours proposé, comme nous avons beaucoup de partenaires dans les domaines sanitaires, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de réduire vraiment, même en ayant l'accès aux antirétroviraux, comme j'ai félicité les dépistages, parce que si autrefois les dépistages étaient payants, mais au jour d'aujourd'hui, le dépistage est devenu gratuit. Et c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il n'y avait pas moyen qu'on puisse vraiment réduire, pourquoi pas même annuler tous ces prix-là pour permettre à nos amis malades d'accéder facilement. Et puis merci. Pour terminer, pourquoi pas utiliser aussi les églises, parce qu'autrefois, il y avait des messages qui passaient dans des églises après chaque prédication, il y avait un spécialiste qui passait pour sensibiliser les gens, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les malades sont toujours dans des maisons. Il y a aussi ceux-là qui viennent dans des églises et qui s'adonnent à des prières. Et si, après la prière, on accompagne avec un message de sensibilisation, je pense que ça sera une lutte vraiment efficace.
Merci.
Pour éradiquer même pas à 100%, même à 80% cette maladie.
Merci beaucoup, Adrien. D'ailleurs, vous l'avez dit, après le programme, la fin du travail de Amo Congo, exactement. Le problème des structures qui doivent faciliter à ceux qui sont dépistés d'entrer en possession de médicaments. Mais il faut aller dans les centres, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux généraux de référence. Il y a moyen qu'on puisse vous orienter aujourd'hui pour savoir où est-ce que vous pouvez vous ravitailler en termes de traitement. Mais cela ne doit pas s'arrêter à ces niveaux-là. La campagne, l'intensification des campagnes de dépistage volontaire, il faut les dire, insister par le fait que le dépistage est gratuit parce que beaucoup de gens ont peur. Mais le plus grand travail aujourd'hui, il est au niveau psychologique pour savoir comment accompagner une personne. Parce qu'on sait, chaque fois on parle de dépistage volontaire, on voit beaucoup d'hésitation parce que les gens ont peur de la stigmatisation. Mais s'il y a des garanties d'accompagnement, je crois qu'à ce niveau, on peut arriver à conjuguer l'ensemble de ces efforts pour lutter contre cette pandémie. Merci beaucoup, Adrien. Félicia, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierre.
On vous écoute.
Oui, en tout cas, nous disons merci à un coup de chapeau à notre gouvernement pour l'effort fait. Et le problème est que moi, j'aimerais que ces campagnes de sensibilisation ne se limitent pas pour seulement le mois de décembre et de janvier. Mm-hmm. Souvent, nous voyons les organisations naissent au lendemain du 1er décembre pour aller jusqu'au 30 décembre. Et après le 30 décembre, ces organisations-là, disant qu'ils sont en train de sensibiliser, périssent, ils partent et on ne les voit plus sur terrain. Le problème est que qu'on puisse premièrement recenser les organisations de chaînes, les organisations de grandes personnes qui s'occupent dans la lutte contre le VIH/SIDA. Lorsqu'on les connaît, et s'il y a financement ou quoi, on sait comment répartir et dispatcher, savoir qui doit faire quoi et comment le faire. Moi, je vois il y a plusieurs choses qui se font sur terrain. Il peut y avoir qu'il y a le financement ou bien il y a l'argent doté pour qu'on puisse battre la campagne sur la sensibilisation contre le VIH/SIDA. Mais ce qui se fait sur terrain, c'est ceux qui reçoivent cet argent, ils s'attroupent, ils créent des mouvements pour avoir cet argent et mettre dans leur poche et tout. Et mon apport, je peux l'apporter en disant que pour aller jusqu'à réduire la pandémie du SIDA jusqu'à zéro, nous devons commencer par multiplier le rencontre avec le jeune. Mmh. Le jeune qui sont à l'âge qui varie de 18 à 35 ans. Parce que je peux dire, c'est la période ou bien c'est l'âge-là qui est tellement connu, bien qui est tellement atteint ici en RDC. Si on commence à sensibiliser ces jeunes-là, à les informer, à les former mm-hmm. sur la pandémie, sur les méthodes de prévention et de transmission, je pense que ça pourra aller. Parce que
merci.
En voyant, il y a deux jeunes. Aujourd'hui, il y a un de mes prédécesseurs qui ont parlé. Il y a un jeune qui ne connaît même pas qu'est-ce que le SIDA, comment le SIDA se transmet et comment éviter le SIDA.
Merci beaucoup, Félicia. Félicia, merci, vous avez raison pour dire que la campagne ne doit pas concerner seulement le mois de décembre, hein, parce qu'il y a des structures qui organisent des manifestations uniquement pour célébrer la journée comme aujourd'hui, le 1er décembre, et à la fin, les structures ne continuent pas. Pour vous, il faut intensifier ces campagnes. Elles ne doivent pas être seulement liées à la période de la journée de la célébration. Il faut les intensifier. Il faut aussi des campagnes ciblées, vous l'avez dit, ciblées à un certain âge, l'âge qu'on estime aussi actif, mais l'âge aussi où on rencontre qu'il y a beaucoup de questions d'ignorance. Il faut prendre tout cela en compte. Merci beaucoup, Félicia. On reste dans la même zone avec vous, Georges. Vous êtes à Manono. Bonjour, Georges.
Oui, bonjour, monsieur Piero et la Médie. Bonjour aussi à tous les auditeurs.
On vous écoute, Georges.
Pour mettre fin à la propagation du VIH/SIDA, il faut que notre gouvernement, monsieur Piero, puisse investir par la sensibilisation et non, monsieur Piero, confier cela à des ONG international comme l'ONU-SIDA. Nous voyons des ONG qui mettent beaucoup de moyens pour mettre fin à cela. Et comme l'a dit le prédécesseur ici chez nous, depuis 2005, on avait l'ONG internationale GOL. Donc, à la fin comme ça, cette ONG a organisé même des marches organiser même des matchs de football et profiter de cette occasion pour réunir les jeunes et les sensibiliser. Alors, pendant ce temps-là, les jeunes étaient tellement informés. Mais après le départ, il n'y avait pas de longue c'était sur le silence radio. Après le départ, il n'y avait pas d'activité du côté de notre gouvernement. Donc, le gouvernement ne devait pas laisser cette tâche-là aux organisations internationales. Et pourquoi pas louer une somme spéciale pour lutter contre le VSIDA, ça peut être...
Alors, Georges, comme vous le dites, oui, Georges, vous estimez pour vous que la campagne doit être plus pilotée par le pouvoir public que par les organisations internationales, les ONG qui ont deux programmes, ils travaillent un programme, oui. Et quand le financement de ces programmes...
En deuxième, M. Pierrot, il faut qu'on arrive à recycler toutes les personnes contaminées et les garder dans des endroits isolés des autres pour éviter la contamination.
Cette conception de la stigmatisation, c'est exactement ça, la stigmatisation. Prendre les personnes qui porteurs du VIH, aller les cantonner dans un camp, ça a été déjà, c'est une méthode déjà révolue, parce que d'autant plus que le virus ne se propage pas par les contacts individuels, on mange ensemble, on vit ensemble, et on ne peut pas faire des camps aujourd'hui d'exclusion pour les personnes vivant avec le VIH, et ça automatiquement, ça donne l'idée même de la stigmatisation. On est en train de lutter contre la stigmatisation parce qu'il faut vivre ensemble avec la personne qui porte le VIH, qui suit les traitements, qui est encadré, et on le voit. Vous vous rappellerez que nous avions eu même d'ailleurs l'année passée une très belle émission avec une personne vivant avec VIH qui a donné le témoignage, qui passe à la télé, qui encourage, qui vit en famille sans problème. Mais dis-moi, ce qui est important pour vous, le fait que la campagne est des fois confiée à des ONG qui n'ont qu'un programme limité dans la durée par les moyens, et quand cette ONG est partie des Manono, aujourd'hui il y a pas de campagne de sensibilisation, et c'est ça le rôle même du pouvoir public, de pouvoir intensifier là où il n'y a pas des ONG internationales. Merci beaucoup, Georges. Patrick, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Comment on peut relever les défis aujourd'hui de la lutte contre les SIDA dans votre milieu?
Premièrement, je tiens à saluer cette journée qui a fait prendre en compte cette maladie qui tue beaucoup de personnes. Moi, je pense que la lutte contre le VIH-SIDA, c'est une préoccupation de tout le monde. Et cette maladie, pour essayer un peu de résoudre ce problème, il faudrait prendre en compte les aspects sociaux, économiques et culturels. Quand je parle de la vie socio-économique, vous savez, aujourd'hui, la tranche d'âge qui est beaucoup plus attirée à cette maladie de sida, c'est beaucoup plus la jeunesse. Mais si la jeunesse congolaise se trouve dans une situation de chômage, et moi je pense que bien que cette jeunesse sera exposée par manque de moyens, surtout les jeunes filles, dans les rapports sexuels menés. Alors, à cette situation, vous allez voir encore sur le plan économique, quand les jeunes ont de l'emploi, c'est important, c'est parce que le temps qu'ils devraient passer pour se distraire sur le plan rapport sexuel, ils devraient passer ce temps au travail. C'est ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Prenons le cas de la ville de Mbandaka sur le plan socio-culturel. Cette ville de Mbandaka qui n'a pas de l'énergie, vous savez, l'énergie, la période de l'énergie, essaie un peu, n'est-ce pas, d'handicaper d'autres choses qui devraient, n'est-ce pas, porter atteinte à la vie de la population. Là où il n'y a pas de l'énergie, il n'y a pas de distraction. Les jeunes trouvent le seul moyen pour se distraire, c'est. Mais s'il y avait de l'énergie électrique ici en Bandaka, les jeunes devraient passer leur temps en regardant la télévision. C'est ce qui n'est pas encore le cas. Alors, je devrais également demander au gouvernement, en partenariat avec les organismes internationaux, de pouvoir, n'est-ce pas, intégrer les cours de sida ou l'éducation dans les cours d'éducation à la vie au niveau des sixième année primaire. Pourquoi je dis sixième année primaire? C'est parce que nous avons compris ici dans la ville de Mbandaka, il y a certaines filles au niveau des sixième année primaire qui sont déjà enceintes. Si elles sont enceintes, cela veut dire qu'au niveau déjà de l'école primaire, ces filles, n'est-ce pas, ont su, n'est-ce pas, comment faire les rapports sexuels. Moi, je pense que c'est un problème lié à la pauvreté, c'est un problème lié à la conjoncture, mais également c'est un problème qu'il faut susciter une forte sensibilisation pour ne pas éradiquer ce problème.
Merci beaucoup, Patrick. Merci, Patrick. Patrick, parce qu'il faut permettre aussi à d'autres compatriotes qui sont très nombreux, parce que la question intéresse beaucoup de gens. Vous avez évoqué la situation socio-économique, la culture, mais rappelons quand même que avoir déjà en sixième primaire des filles qui tombent enceintes dans votre milieu, c'est une question qui doit préoccuper la communauté. Non seulement ça doit préoccuper les parents, parce qu'en principe ces filles sont mineures, il faut que cela préoccupe au plus haut point les autorités politico-administratives, la communauté dans sa globalité, et vous estimez qu'il faut déjà insérer aujourd'hui dans les cours d'éducation à la vie, la question du sida doit être considérée comme une priorité déjà à partir de la sixième primaire, parce que déjà dans votre milieu, ces filles, hein, ces jeunes filles, ces enfants qui sont en sixième primaire sont déjà exposés, mais cette question doit vraiment interpeller au plus haut point la communauté en Bandaka. Merci beaucoup. Ignace, vous êtes à Kolwezi. Merci de nous avoir rejoint dans ce débat. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Peut-être que les auditeurs auront de petits problèmes à monsieur parce qu'il pleut ici. Je vais dire que lutte contre le sida, le VIH-sida, doit être incorporée dans notre vie. Parce que nous vivons avec le sida, nous vivons avec les personnes chaque jour qui souffrent de sida. Tout le monde est revenu sur la sensibilisation. Je voudrais ajouter à cette sensibilisation un petit aspect. C'est que l'État doit être très regardant par rapport aux différents centres médicaux, centres de santé médicaux qui sont éparpillés à travers nos sociétés, de nos quartiers, par rapport aux conditions dans lesquelles on est en train de soigner. Il y a parfois des personnels qui ne sont pas qualifiés ou qui sont qualifiés mais qui prennent des allures de charlatans, qui pensent qu'ils peuvent soigner toutes les maladies alors que les conditions ne sont pas réunies. Parfois, cela est à la cause et est à la base de la transmission. Mais je voudrais revenir. Beaucoup ont parlé sur la transversalité du problème par rapport aux différents ministères. Je vais ici évoquer seulement les ministères de l'information. Par exemple, vous voyez ici, à chaque chaîne d'information, à chaque fois qu'il y a information, on devait faire passer un spot chaque jour qui rappelle à la société que le sida est avec nous. Je voudrais aussi revenir sur la famille où le problème de la sexualité est pratiquement un tabou. Toute personne qui vit est au sein de sa famille. Les jeunes qui viennent au monde, les jeunes qui sont dans des familles, si chaque parent devait parler du sida en insistant sur l'éducation sexuelle de la jeunesse, je crois que cela pourrait apporter un plus par rapport à ce qui vient d'être fait à ce stade par l'État. Voilà un peu ce que moi je voulais ajouter. Mais pour terminer, je rappelle aussi le ministère de Jeunesse et Sport, la Défense, la Sécurité, l'Intérieur. Vous allez voir que ce sont des ministères qui touchent directement des grands nombres et qui peuvent avoir de l'impact s'ils sont sensibilisés sur la santé communautaire en rapport avec le sida. Voilà un peu comment je voulais voir les choses.
Merci beaucoup, Ignace. Vous êtes à Kolwezi, il pleut abondamment, mais le signal a été très clair. Hein. C'est une agréable journée pluvieuse. Mais vous avez insisté sur la question il faut incorporer la lutte contre le sida dans la vie de tous les jours. Pas seulement une question de l'État, mais c'est une question de la famille, de la communauté. Mais au niveau du pouvoir public, au ministère de l'Information, si on peut avoir des campagnes et des spots publicitaires qui peuvent rappeler à chaque session d'information la question du sida, c'est vraiment très, très intéressant. Et d'autres ministères qui touchent en masse de la population, ils devaient déjà intégrer cette question. C'est pourquoi nous avons le programme, le PNMLS, Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida, qui en principe a une vision assez élargie dans la communauté dans cette question du Sida. On retourne ici à Kinshasa. Non, mais c'est plutôt en Bandaka. Avec vous, Alain, bonjour.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à tout le monde.
Merci Alain, on vous écoute.
Moi, je crois qu'au-delà de la sensibilisation, je voudrais qu'on insiste plus aussi sur la capacité de réaction, en fait. C'est-à-dire en termes de traitement. On se rend compte que la capacité d'accueil, déjà en termes de répartition géographique, des centres de santé pose problème. J'étais à Gwende, j'ai vu la structure, parce que le ministère de la Santé, c'est l'une des structures ou l'un des départements de l'État qui apparaît plus organisé en termes de réaction, en termes de capacité, en termes de la représentativité au niveau de province. Mais malheureusement, ce que vous prenez en termes de capacité d'accueil des centres questions de santé, ça pose problème. Si nous prenons déjà les ratios de médecins, on se rend compte que la répartition géographique des médecins pose problème par le simple fait que la majorité des médecins préfèrent rester dans les grands centres. Or, la quasi-totalité ou la quasi-majorité de la population réside dans les milieux ruraux. Et là, il n'y a pas de centre de santé qui correspond aux besoins de la réaction que nous voulons apporter dans ces secteurs. Et deuxièmement, vous prenez l'accès anti-rétroviraux. Ça pose problème parce que la majorité de la population n'a pas accès à ces produits-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont atteints par les SIDA ont des difficultés d'être pris en charge par les centres de santé. Si on peut déjà se rassurer que l'État sera en mesure de pallier ou de supporter
Et d'ailleurs, Alain, vous avez abordé les questions des fonds, la question de la distribution aujourd'hui des compétences. Est-ce que nous avons des compétences en milieu rural pour s'occuper de cette question de VIH, mais aussi la question de l'accès aux antirétroviraux? Voilà autant de questions majeures. C'est-à-dire que notre capacité à réagir face aux problèmes, c'est ça les défis qui nous restent à relever. Merci beaucoup, Alain. On va terminer avec vous, docteur Ngalamoulumé. Vous êtes à Kananga. Merci de nous avoir rejoints à ce niveau du débat. Bonjour, docteur. Voilà, dommage. Des petits soucis des lignes avec docteur Ngalamoulumé qui nous appelait de Kananga. On aurait aimé avoir son témoignage. Mais vous avez été nombreux à commenter ces sujets sur la question de VIH. Beaucoup de propositions. La question de la sensibilisation, la question de la transversalité des préoccupations pour lutter contre la maladie, disponibiliser le médicament, les compétences à travers le pays, ce qui montre quand même que la question est prise en considération par l'ensemble de la communauté. Mais n'oubliez pas que vous pouvez poursuivre le débat et les partages sur la page Facebook des paroles aux auditeurs et commenter encore ces sujets davantage, comme c'est une grande préoccupation. Et en attendant, nous recevons dans ce studio Nico Kalambay. Nico, bonjour et bienvenue dans ce magazine.
Bonjour Pierrot et bon début de week-end.
Donc voilà, ça va être un agréable week-end, je crois, pour l'ensemble de nos auditeurs.
Nous l'espérons.
Et on va se retrouver le lundi. C'est au menu, ça sera autour de quoi?
Oui, Pierrot, dans un communiqué du 27 novembre dernier, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CINCO, a demandé à Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Les évêques catholiques estiment que cette déclaration contribuerait à l'apaisement des tensions politiques. En outre, l'épiscopat invite les parlementaires congolais à rejeter, selon l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre, toute initiative de révision et de changement de la Constitution pendant la période préélectorale et électorale. Que pensez-vous de ce plaidoyer? C'est donc autour de cette question que va tourner le débat ce lundi.
Voilà, parce qu'on sait que lors du dialogue des Saint-Sylvestre, on a beaucoup insisté sur la décrispation de l'espace politique. Mm-hmm. On estime que les auditeurs ont quelque chose à dire
là-dessus.
Le lundi, ils peuvent déjà nous appeler au 081-890-4969. Nous insistons que ça sera à 10h, parce que nombreux appellent même le week-end, alors que Parole des auditeurs n'est pas ici. Personne ne sera à mesure de répondre les appels.
Et puis, il est important d'insister pour ceux qui vont se faire réserver. Ça veut dire ceux qui vont se signaler. C'est important que ce jour-là, ils soient joignables. Nous insistons parce que il y en a qui se font réserver, qui font réserver leur place. Mais après, quand on les appelle, on ne peut pas les joindre. Et il faut signaler aussi que cette émission sera sur notre site web juste dans quelques minutes.
Voilà. Et surtout, Nico, c'est qu'il dépose le numéro de téléphone sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Quand on le rappelle, soit ils sont distraits, soit carrément cet état. Merci beaucoup, Nico. Merci. Bon week-end à vous aussi. Bon week-end aussi à Jean-Noël Mokondo qui était avec nous à la mise en onde. Bon week-end à l'ensemble des auditeurs, à Martin Sebujangwe qui a supervisé cette émission. Pierrot et la Meji, je vous dis merci. Parole aux auditeurs, c'est aussi sur www, comme Lico le disait tout à l'heure, radiocapi.net. On se retrouve le lundi pour de nouvelles aventures dans Parole aux auditeurs. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Merci, au revoir.